Attention, nous commençons dans un quart d'heure.
Mais même si tu n'étais pas ici maintenant, même comme si j'avais une ombre de plus, une deuxième âme, une. Et de quoi s'agit-il ici en fait ?
Gide disait, on a le public qu'on mérite. Et je crois que c'est une très bonne définition. Et nous voudrions que le théâtre que nous aimons soit le théâtre populaire.
Ce n'est jamais un comédien, ce n'est jamais un régisseur ou un metteur en scène qui provoque une révolution profonde des techniques du théâtre, c'est toujours un auteur.
Bonjour à tous, nous sommes en direct et en public dans la calade de la Maison Jean Vilar pour une émission spéciale aujourd'hui autour des spectacles d'outre-mer en Avignon. Nous sommes à présent en compagnie de Julius Amédée Lahou, auteur dramatique martiniquais né à Paris, également réalisateur, qui dirige actuellement le Petit Théâtre de la Cour des Poètes à Montpellier depuis 2015, et Daniel Mesguiche, que nous connaissons bien à l'Écho des Planches, est d'ailleurs le parrain de votre théâtre. Bonjour Julius.
Bonjour Raphaël, bonjour, bonjour.
Nous sommes aussi en compagnie de Fanny Karenko, auteure, comédienne et metteuse en scène. Vous travaillez notamment en lien avec la scène nationale de Bonlieu à Annecy. Et vous êtes directrice de la compagnie de la Grande Horloge basée à Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Et nous attendons sous peu Greg Germain, directeur de la Chapelle du Verbe Incarné et ancien président de l'association Festival du Festival d'Avignon Off entre 2009 et 2016, et président de l'Agence de promotion de diffusion des cultures d'outre-mer, et évidemment acteur et metteur en scène qui viendra nous parler des difficultés actuelles de l'agence. Alors en attendant que Greg Germain nous rejoigne, nous allons évidemment parler de vos deux spectacles donc, que j'ai choisis. Parmi la programmation des Outre-mer qui est assez dense cette année dans le Off, puisqu'il y a 15 spectacles de programmés, il se trouve que vous êtes tous deux issus de Montpellier, donc vous êtes tous les deux également auteurs dramatiques et metteurs en scène. Fanny Karenko, vous mettez en scène La Mulâtresse Solitude à l'Espace Roseau Teinturier à 10h30. Quant à vous, Julius, vous mettez en scène une autre histoire où Le Malentendu au Théâtre de la Carreterie. Je crois qu'il ne reste plus que 3 représentations. Vous nous donnerez les dates et les horaires en fin d'émission. Alors vos deux spectacles sont des morceaux de vie, des tranches d'existence véritablement, avec un souffle romanesque. Donc Fanny Karenko, vous avez choisi d'adapter La Mulâtresse Solitude, donc le roman d'André Schwarzbart paru en 1972, qui évoque l'histoire de Solitude, une esclave noire au XIXe siècle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'adapter ce texte au théâtre ?
Déjà parce que le texte dans sa forme même est absolument magnifique, et surtout pour ce qu'il défend, l'espoir qu'il donne et cette envie de combat dont il en sort. Et c'est un texte que j'ai aussi choisi d'adapter pour l'histoire de Solitude, qui est en lien avec une histoire un peu oubliée de l'histoire de France, à savoir le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, enfin qui était encore Bonaparte. Et ça me paraissait important de rappeler ça, et pour se rappeler ce que l'État peut faire aussi. Voilà.
Alors, avant d'interroger Julius pour une première question, j'aimerais qu'on écoute un extrait de son texte qu'il joue actuellement et qu'il m'a fait parvenir et qui est lu par nos soins. Et pendant ce temps, Greg Germain nous rejoint sur le plateau.
Quand j'ai ouvert les yeux, tout autour de moi était mort. Tout avait brûlé. Ici, l'herbe ne repoussera jamais. Pour longtemps, maudite sera cette terre. Quand les hommes sont venus, tout était calciné, mort. Tout n'était que cendres, squelettes fumants, consumés. Toutes ces cendres, tout redevenu poussière, comme ma révolte, ma haine l'avait voulu. Et comme jamais aucun feu naturel n'aurait pu rendre. J'étais moi au milieu des cendres, mort aussi, seul des corps. Le mien n'avait point connu les dommages des flammes. Les vivants sont venus pour me contempler. Mon visage était calme, paisible, lumineux, heureux. Mon corps était beau, détendu, musclé, luisant sous le soleil chaud, intact. Indécis, terrorisés, les vivants se sont écartés. Ils ont reculé, effrayés. Tous me regardaient, les yeux épouvantés. Je souriais. J'ai vu le jeune Pinguelé dans cette foule fébrile, bruissante. Il se taisait dans les murmures agités, me regardait grave, savait. J'ai vu ce nouveau monde, les cauchemars pour mon peuple, jusqu'à la rencontre, comme il est écrit. Fils de Narmer, des maîtres des sciences de Memphis, ma mort est inscrite dans notre chute. Les Sangarés continueront quelque temps encore à sévir, servir les pillards barbares. À leur vendre nos terres, notre terre, nos frères, l'Afrique pour qu'ils la violent, la brûlent, la dépècent, en faire le dernier désert de sable où ne subsisteront qu'ombre des esprits de mon peuple mort. Sur un continent ravagé par la mort du végétal, de l'animal, de l'humain, seul s'exprime le mensonge, la duplicité des barbares venus du nord, venus encore tuer pour toujours plus s'enrichir, toujours plus se jouir. Bientôt l'Afrique morte, déserte, continent lunaire, les rares descendants survivants d'Africains, noirs et pars, enfermés dans d'autres histoires, d'autres mensonges, ne comprendront pas.
Voilà, donc nous venons d'entendre un extrait du texte de Julius Amédée Lahoux que nous interrogerons après avoir interrogé Greg Germain, justement, qui devra nous quitter en cours d'émission. Et donc ce pourquoi nous le recevons aujourd'hui, c'est bien pour parler des difficultés de l'Agence de promotion et de diffusion des cultures d'outre-mer dont il est le président. Alors je rappelle quelques faits, cette agence a été mise en œuvre en 2012 en lien avec le ministère de la Culture et le ministère des Outre-mer et dispose de financements publics pour promouvoir les productions culturelles des territoires ultramarins. Elle est actuellement menacée de se voir supprimée dès la rentrée et ses missions seraient transférées à la Cité des Outre-mer qui a été lancée à la hâte par François Hollande en mars dernier, mais qui ne verra pas le jour avant 2019. Alors on sait, Greg Germain, votre engagement depuis de nombreuses années pour défendre ces spectacles jusque dans les murs de votre théâtre, depuis les murs de votre théâtre même, j'ai envie de dire. Et on sait aussi l'importance des spectacles d'outre-mer dans l'espace avignonnais, qui ne compte pas de moins, je rappelle, cette année, 15 spectacles dans le off. Alors je me demandais quel serait le risque pour la présence des spectacles d'outre-mer à Avignon si les missions de l'agence qui existe actuellement et qui est implantée dans l'espace avignonnais depuis 5 ans venaient à disparaître.
Bonjour, alors je ne pensais pas qu'on allait parler politique, je pensais qu'on allait parler artistique, mais pour répondre très directement à votre question, rien. Cela ne touche en rien la Chapelle, qui est une ambition citoyenne privée et qui, depuis 20 ans maintenant, reçoit des compagnies d'outre-mer. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ce que l'un fait, l'autre le défait, et on dirait qu'à chaque fois, les cultures et les imaginaires d'outre-mer sont des variables d'ajustement. Il y a eu des assises de l'outre-mer en 2009. De ces assises ont jailli cette idée qu'il fallait effectivement sortir de leur bassin, vu l'étroitesse des territoires, vu le fait aussi que ce sont des Français comme les autres et que, comme les autres, ils ont envie de participer aux grandes fêtes du théâtre français, notamment au Festival d'Avignon, in et off. Le in, c'est plus difficile, mais enfin, au moins, le off, il y a quelqu'un qui les accueille. Donc, ça ne changera rien. La seule chose que ça changera, c'est que là où on pouvait éventuellement bénéficier de quelques subsides pour promouvoir et diffuser, ça va être englobé dans une espèce de goulbi-goulba, comme on sait faire quand on parle des pays d'outre-mer. On va mettre des financiers, un bar, enfin bon, des choses qui n'ont rien à voir avec la culture. Ce que moi je déplore toujours, c'est que les imaginaires de ces identités singulières et plurielles qui participent justement au développement de la France, qui ne le sait évidemment pas assez, puisque la France ne se réduit pas à un simple hexagone, comme je le dis à chaque fois, mais un archipel, étant donné qu'il y a des Frances dans tous les océans du monde et sur tous les continents, et que c'est un grand pays si vraiment un jour nous arrivons effectivement à être intégrés dans les imaginaires et la culture de ce pays.
Alors justement, vous évoquez la chapelle du Verbe incarné que vous dirigez avec Marie-Pierre Bousquet et qui fête cette année ses 20 ans. Alors quel bilan faites-vous du chemin parcouru dans votre théâtre au vu des missions et de la ligne artistique que vous aviez préalablement définie?
Non, les missions que nous avons définies, Marie-Pierre Bousquet et moi-même, sont remplies, mais elles ne suffisent pas. Comment peut-on, dans un pays comme la France, se satisfaire du fait qu'il y ait un lieu qui soit un petit peu dévolu à l'outre-mer? En même temps, nous ne fermons pas la porte aux autres, puisque l'outre-mer, c'est ça, c'est cette multidisciplinarité, c'est cette pluriethnie. L'outre-mer n'est pas noir, l'outre-mer est kanak, l'outre-mer est blanc, l'outre-mer est en Atlantique Nord avec Saint-Pierre et Miquelon, est à Mayotte, et, enfin, l'outre-mer est partout. Et donc, qu'on ait encore un seul lieu, aujourd'hui, 20 ans après, avoir s'être battu comme un chien, comme tous les ans d'ailleurs, et que ce soit encore le seul qui existe, on se dit, mais dans quel pays on vit, quand même? Enfin bon, mais je suis pourtant assez vieux et j'ai des émois de jeunes garçons. Il ne faut pas m'écouter, hein, faut les prendre comme elles viennent.
Et du coup, comment est-ce que vous envisagez de lutter contre cette décision qu'on vient d'évoquer juste avant, dans les prochains mois?
Bon, d'abord, ce que j'ai entendu de la nouvelle ministre de l'Outre-mer, parce que là aussi, j'en ai vu, hein, presque autant que de ministre de la Culture. Ce que j'ai entendu de la ministre de l'Outre-mer, Madame Girardin, Annick, qui est originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui connaît peut-être un petit peu mieux les difficultés de ces petits territoires et de la difficulté de créer sur ces petits territoires et de la difficulté de diffuser sur ces petits territoires. Parce que aujourd'hui, je vais revenir à votre question. Les créateurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Réunion, Mayotte, et j'en oublie probablement 5 autres, créent pour manger. Vous demandez une subvention, vous créez un spectacle, vous jouez 2 fois, et puis ça s'arrête. Et donc, il faut recréer tout de suite. Comment le développement, la recherche en profondeur de son métier d'acteur, de son métier d'auteur, de son métier de scénographe ou de technicien est extrêmement difficile, extrêmement compliqué dans ces cas-là. Bon, pour revenir à votre question, comment j'imagine ça? Ben, de continuer tout simplement et puis de continuer à faire des radios. Et puis si ça marche, ben ça marche. Si ça ne marche pas, bon, on aura encore pris quelques années de retard, mais nous sommes habitués.
Je voudrais revenir aussi sur la présence de Césaire cette année, par exemple, au TNP. Je sais que vous étiez impliqué, je crois, dans la captation du spectacle. Ce projet que Christian Cerretti a porté, alors c'est pas tout à fait l'outre-mer, parce que c'est plus, si mes souvenirs sont bons, plutôt des pays, des comédiens africains qui sont sur scène. Mais ce type de projet, vous déplorez qu'il ne soit pas aussi important dans tout le territoire métropolitain?
Vous savez, je ne peux pas demander, je crois même que ça a été une demande de fait par un des ministres de la Culture, d'essayer d'inclure ou de parrainer au moins une compagnie, un théâtre qui vienne des Outre-mer. Ils ne répondent pas à cette problématique, puisque leur problème à eux, dans ces scènes nationales, CDN, CDR, et autre chose que nous payons fort cher avec nos impôts, ils font ce qu'ils entendent faire, et ils ont raison, ce sont des créateurs. Simplement, oui, pour en revenir à Schiaretti, oui, j'ai participé à ce projet puisque j'ai filmé la pièce au Théâtre des Gémeaux à Sceaux. Je crois que Christian Schiaretti a l'idée d'en faire un triptyque avec La Tempête, une saison au Congo qu'il a déjà faite. La parole de Césaire peut être jouée comme celle de Shakespeare par tout le monde. Elle peut être jouée par des Africains comme Shakespeare peut être jouée par des Français. Pourtant, c'est écrit en anglais et ça concerne essentiellement le Royaume-Uni. Donc, pour moi, cet art-là n'a pas de frontières. Je déplore toujours, bien sûr, par exemple. Schiaretti a travaillé avec une 50aine, je crois, d'une équipe qui vient du Burkina Faso. Ils ne sont pas venus par leurs propres moyens, on les a aidés à venir et Schiaretti en a fait la demande. Si une telle agence existait, est-ce que vous ne croyez pas qu'elle aurait pu approcher Schiaretti pour lui dire, voilà, vous avez besoin de 50 comédiens, pourquoi ne pas en prendre qui viennent, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais qui viennent des départements et territoires d'outre-mer, nous avons de l'argent pour leur mobilité, nous avons de l'argent pour les loger, comme l'Institut français, j'imagine, je ne suis pas allé dans les arcanes des financements des pièces de Schiaretti, comme j'imagine l'Institut français ou l'Office national de diffusion artistique a dû faire pour lui. Donc ce sont des courts exemples comme ça qui montrent que si on veut, on peut. Les développements endogènes sont extrêmement difficiles en ce qui concerne la culture dans les petits territoires d'outre-mer que nous occupons. Donc il faut absolument les aider. Et je laisserai mon ami Julius Amédée-Lahoux parler de la difficulté de ce que l'on pourrait appeler le sixième dôme ou de la France des oubliés ou de... je sais pas, des, comment...
Alors justement, oui, comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de dire Greg Germain, vous, Fanny Karenko et Julius
Oui, bah, bien sûr, je pense que Greg... ce que dit Greg est tout à fait juste. Il y a un vrai problème à la fois dans le pour aider à l'embauche des comédiens ultramarins et un problème aussi au niveau de la diffusion où on et la Chapelle du Verbe incarné permet cette diffusion. Mais ce qui est très dommageable, c'est qu'il y a qu'un seul endroit et que des théâtres qui ne se sentent pas spécialisés là-dedans. Dans ces thèmes-là, ne se permettent pas de diffuser des pièces qui traitent de l'outre-mer ou avec des acteurs d'outre-mer.
Julius ?
Oui, que rajouter de plus ? Effectivement, on vit une grande frustration dans ce pays en tant que noir dans ce pays. On est exclu. Notre culture est minorisée, elle est dévalorisée. Et c'est vrai que... c'est totalement anormal que nous n'ayons qu'un lieu. Là, on a un guerrier, on a un grand guerrier. Il se bat comme un lion depuis des années, depuis qu'il est sur la place. Et c'est bien dommage. Il y a d'autres guerriers, il y a d'autres lions, mais il y en a pas mal qui ont été abattus aussi. Le combat continue. Hein, on est en 2017. On a encore des millénaires devant nous, donc... Oui. On est positif et oui,
je crois. Bon, alors Julius fait partie de ces guerriers un peu plus de l'ombre parce que bon, il est comme ça. J'aime bien la lumière, mais peut-être parce que je suis acteur et pas auteur. Quand on dit les cultures, nous parlons d'un pays, la France, qui est traversée par absolument toutes les cultures du monde. Aujourd'hui, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans sa façon d'utiliser un téléphone, que ce soit dans le numérique, nous sommes traversés par toutes les cultures du monde. Il est tout de même étonnant que des imaginaires qui font partie des imaginaires, qui font partie de la grandeur de la France, si je puis dire. Aimé Césaire, il est né en Martinique, il n'écrit pas en anglais ou en espagnol. Édouard Glissant, qui est un philosophe majeur qui nous a quittés il y a 5 ans, est quelqu'un qui a écrit en français dont on peut comprendre. D'ailleurs, Glissant est un des auteurs les plus étudiés, des auteurs français, c'est absolument extraordinaire, c'est paradoxal, les plus étudiés aux États-Unis, en Afrique, au Japon, en Chine, etc. Donc on se dit, on dirait que notre pays se coupe. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est dû aux petits hommes gris de la culture, comme disait Roger Planchon, qui se disent, bon, nous, notre universel, c'est celui que nous avons, c'est celui que nous connaissons, nous n'entendons pas en changer, il faudra bien, puisque je crois qu'un pays appartient à ses citoyens, il n'appartient pas à ceux qui le dirigent, il n'appartient pas au service de ceux qui le dirigent. Un pays appartient à ses citoyens, et ce sont les citoyens que nous sommes qui devons forcer la porte. On n'est pas prêt à faire des choses difficiles, mais il nous faut forcer les portes, il nous faut parler, il nous faut convaincre, il nous faut dire, répéter 100 fois sur le métier. Et si, bon, au bout d'un moment, un guerrier est abattu, il y a un autre guerrier qui va se lever à la place. Les Français savent bien ça depuis la guerre de Bouvines.
Vous voulez rajouter quelque chose, Julius ?
Oui, je voulais juste dire une chose qui est très, qui est très parlante. Vous allez à Londres, vous allez au Royal Shakespeare Theatre. Vous voyez Hamlet qui est joué par un acteur noir. Vous voyez Macbeth qui est joué par un acteur noir, et ça depuis des décennies. Vous allez à la Comédie Française. Est-ce que vous avez déjà vu jouer un noir, jouer le bourgeois gentilhomme, jouer les pièces de Molière? Non, c'est inconcevable dans l'esprit français. C'est ce qui est bien dommage, quoi. On est dans des cases, on est enfermé à tous les niveaux, que ce soit producteur ou artistique, production ou artistique. Nous sommes enfermés dans des cases de minoritaires, comme on nous enfermait avant. Voilà.
Oui, puis ça va même plus loin que ça, parce qu'on se souvient de la mise en scène de Muriel Mayette du Retour au désert, et le personnage du parachutiste noir était joué par un acteur blanc grimé en noir. Donc ouais. C'est vrai que ça.
Et là même des rôles de noir comme Dumas joué par alors que c'était un noir. Alexandre Dumas était un métis. on l'a blanchi. Et quand, dès qu'on fait une pièce, un film sur lui, on prend Depardieu qui n'est pas noir. Donc il y a une tendance très sérieuse ici à nous, non seulement à nous ignorer, mais à nous effacer. Et c'est ce qui est grave dans cette culture d'aujourd'hui. Mais en même temps, le temps fait bouger les choses. Et encore une fois, je suis totalement optimiste. Et dans les décennies qui vont venir, les esprits seront plus tolérants et plus intelligents.
Mais là encore, je crois que ce sont particulièrement les décisionnaires. Donc j'ai ce théâtre à Avignon depuis 20 ans maintenant. Il y a eu des pièces de Guadeloupe, de Marseille, je ne sais plus combien, peut-être 170, je ne sais plus combien d'acteurs se sont succédés. Ce n'est pas un théâtre dans lequel ne vont que les ultramarins. C'est un théâtre repéré, fréquenté par le festivalier lambda. Et je dirais même que c'est presque une maison de confiance aujourd'hui dans le paysage théâtral avignonnais. Donc ça veut bien dire que le peuple de France, comme dirait, hein, ce peuple-là, il n'est pas du tout fermé à des expressions différemment françaises. Et quand je dis expression, je parle d'ethnie, et tant est, je répète encore et je le répéterai toujours, la France est un archipel, probablement le plus grand archipel du monde, et il est vraiment dommage et malheureux que les services du ministère de la Culture, parce que ça passe par là, le débouché des imaginaires passe par les gens que l'on peut voir sur une scène, qui peuvent interpréter n'importe quel rôle, mais c'est un imaginaire différent. Et donc, je sais bien que le public n'est pas comme ça. Simplement, aujourd'hui, et j'entendais encore parler des gens, les sachants, n'est-ce pas, CDN, scène nationale, etc., où pour eux, la pensée universelle, la pensée universelle, mais quelle arrogance, c'est celle qu'ils développent, eux. C'est tout de même étonnant, ça.
Je veux juste donner...
Fanny Carrico.
Je voulais rebondir sur ce que disait Greg. Ouais, effectivement, moi, je découvre, parce que je monte donc la Mulâtresse Solitude, qui parle de l'histoire de la Guadeloupe, avec des acteurs, une actrice antillaise, une actrice burkinabé. Et je me rends compte du ghetto dans lequel on essaye de mettre, où on empêche, on me dit ah oui, bah t'es avec des noirs, tu joues avec des noirs, eh bah, va dans tel endroit, mais pas ailleurs, t'as pas le droit, enfin c'est comme si c'était
comme dans des ghettos, on est dans des ghettos, c'est l'apartheid qui dit pas son nom. Moi je vais donner juste un petit exemple, j'ai fait un film avec une majorité de comédiens noirs, mais c'est une histoire universelle qui parle d'une histoire d'une famille noire qui vit à Paris, qui a grandi à Paris, qui, depuis des générations, est à Paris. Les grands-parents ont fait la guerre de 14-18. Ouais. Et donc, j'ai essayé de sortir ce film. On a fait ce film sans la mauvaise idée de ne pas avoir de distributeur à la fin. Et on a cherché un distributeur et on a fait des projections privées. Et une fois, il y a un distributeur qui sort de la salle, il ne m'avait pas vu, j'étais caché derrière un distributeur, sans le faire exprès, hein, j'étais juste derrière, j'attendais la sortie du distributeur. Et le distributeur qui dit à son assistant, c'est dommage, il y a trop de noir dans ce film. Voilà, bon, dans quel pays on est, quoi. On est dans un pays de ghetto. On est ghettoisé, mais c'est un ghetto qui ne dit pas son nom, parce que sinon c'est anticonstitutionnel, donc non. Mais dans la réalité des faits, nous sommes ghettoisés. Voilà.
Merci Greg Germain d'avoir répondu à nos questions. Et
Déjà. Et
pour un petit peu une note d'espoir, je vous propose d'écouter une petite chanson pour prendre une pause, L'âme des poètes de Charles Trenet.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Qui rendent gais, qui rendent tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
Nous sommes en compagnie de Julius Amédélaou et de Fanny Karenko pour notre On commence dans un quart d'heure spécial Outre-mer. Donc Greg Germain vient d'évoquer les difficultés de l'Agence des cultures de promotion et de diffusion de l'Outre-mer. Et donc à présent, nous allons parler des spectacles de nos deux invités, ce que nous avions initié au début de notre émission en attendant Greg Germain. Alors j'ai interrogé Fanny Karenko sur le choix de l'adaptation du roman d'André Schwarzbart. Je vais à présent interroger Julius Amédélaou, dont nous avons entendu un extrait du texte en début de cette émission. Alors vous proposez cette année en Avignon un texte qui s'appelle une autre histoire ou le malentendu, dont les thématiques, je trouve, sont proches de celles du roman d'André Schwarzbart, car vous racontez l'itinéraire de personnages, et notamment d'une esclave au XIXe siècle nommée Adélaïde Beaulieu, mais pas que. Est-ce important pour vous, hein, et la question est valable pour vous aussi, Fanny Karenko, de revivifier sans cesse cette mémoire de l'esclavage?
Juste une petite précision, je ne parle pas que de l'esclavage. Il y a quatre personnages qui parlent, en fait, c'est un autre regard sur la colonisation des Amériques. Et donc, ça passe par quatre personnages qui ne sont pas, et il n'y a pas que les esclavages dedans.
On en parlera après.
Non, mais on ne peut pas parler tout de suite. Hein. On peut en parler tout de suite. Il y a d'abord le regard de l'Indienne, des Indiens caraïbes, ceux qui voient arriver la caravelle. Et donc, effectivement, c'est un peuple qui a connu le génocide, qui a été massacré, et qui n'est plus là pour témoigner. Donc, mon témoignage à moi, c'est une fiction, et c'est un regard que je donne sur... qui n'est certainement pas rapporté dans nos livres d'histoire français et occidentaux, c'est comment ces gens qui ont vu la caravelle de colons arriver, comment ils ont perçu ces caravelles, quels auraient été leurs sentiments, quels auraient été... Donc j'ai imaginé la perception, le ressenti qu'ils pouvaient avoir en voyant, et la peur surtout, la crainte de voir ces étrangers venus d'un autre monde venir les envahir. Donc il y a d'une part ces Indiens caraïbes. Il y a d'autre part aussi, je parle des juifs maranes qui fuyaient l'Inquisition. Et ça, on ne le sait pas assez, mais les nouveaux historiens parlent de cette nouvelle réalité. Christophe Colomb, juif, il était... Bon, ça, ma manière à moi, ça c'est un peu une accroche. C'est à partir d'une lecture que j'ai faite il y a quelques années sur Christophe Colomb juif de Sarah Lebovitchi, en 1986, a sorti son bouquin. Et ça a été un déclic pour moi quand j'ai lu ce livre, parce que ça a été un déclic sur l'interprétation de l'histoire, la transformation qui pouvait être faite des réalités historiques par les officiels politiques qui nous fabriquent nos livres d'histoire et qui les donnent aux petits-enfants pour faire croire des histoires. Donc ça a été pour moi le départ non pas de parler que de l'esclavage, mais de parler de toutes la manière dont on nous raconte l'histoire. Donc cette pièce, c'est pour ça que je vous arrête. Je dis pas, je parle pas que de la, surtout pas que de l'esclavage. Je parle de la. C'est une revisitation. C'est un autre regard sur la colonisation des Amériques. Un autre regard qui est certainement beaucoup plus proche de la réalité que de ce qu'on nous raconte dans nos petits livres d'histoire dans les écoles. Donc c'est un livre qui parle de cette indienne, cette jeune indienne caraïbe qui voit arriver la caravelle et son sentiment, sa peur, sa terreur. Il y a une esclave de Martinique, évidemment, qui nous parle de son quotidien, de sa vie quotidienne, de ses souffrances, de son vécu, dans une plantation, dans une maison, avec des colons. Et puis qui nous parle aussi d'un noble de l'Empire du Mali. Comment ce noble de l'Empire du Mali, un Africain, qui en 1818 est capturé sur les côtes, est envoyé vers des plantations de coton du Mississippi. Et ce que je veux dire aussi par là, à travers ce personnage, c'est qu'une chose dont on ne sait pas, et qu'on ne nous dit pas aussi dans nos bons petits livres d'histoire français, c'est que jusqu'au XVe siècle, le niveau des civilisations africaines était au même niveau que les civilisations européennes. Il y avait des châteaux, ils avaient des armures, ils avaient le même type d'artisanal aussi développé, que ce soit dans l'Empire du Mali, que ce soit dans l'Empire du Ghana, le royaume du Kanem, l'Empire de Songhai, les royaumes de Bassigny, le royaume du Congo. Il y avait différents royaumes jusqu'au XVe siècle qui étaient aussi développés. Et ça, on ne le dit jamais dans nos bons livres d'histoire français. Et la manière dont on montre les Africains. J'attrape le torticolis en te regardant. Là, c'est pas... de la manière dont nous montrent les Africains dans tous les médias, dans tous les livres d'histoire, dans toutes les revues, le regard sur l'Africain est toujours terriblement dévalorisant. C'est toujours le bon sauvage, tout nu, avec un os dans le nez. Alors que ce n'était pas du tout ça dans la réalité. Donc ma pièce, elle rétablit en quelque sorte, elle essaye de rétablir déjà l'humanité des uns et des autres, de tous ceux qui ont subi la colonisation, et d'autre part, en même temps, d'établir une égalité entre les différentes souffrances, ces juifs qui se sont cachés, les maranes, les conversos, qui se sont cachés, qui ont fui, l'Inquisition sur le bateau en l'occurrence de Colomb qui était voilà. Donc c'est un équilibre entre ceux des hommes et des femmes qui ont subi la colonisation dont on parle jamais et surtout leur regard. Voilà.
Mais c'est vrai, vous avez raison. Hein, il y a une vraie recherche, j'ai envie de dire presque épistémologique, qui va bien au-delà d'un travail de fiction dans votre travail. Et Fanny Karenko, sur cette question, est-ce que vous pensez que c'est important de revivifier cette mémoire de l'esclavage? Ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a d'autres thèmes aussi, peut-être comme Julius, qui sont sous-jacents dans votre adaptation de ce roman, qui ont émergé au cours de votre travail?
Déjà dans le oui pour la première question, bien sûr c'est important d'en parler, de parler de l'esclavage, de parler en plus moi je Solitude raconte un pan de l'histoire qui est quand même complètement mis de côté et caché parce que Napoléon, le grand Napoléon qui a encore toutes ces institutions dans lesquelles on vit encore, a quand même rétabli l'esclavage. Donc c'est quelque chose qu'il faut dire. Ça permet quand même aussi de reposer un peu des questions sur le fonctionnement même de l'État aujourd'hui et sur plein de choses. Et par contre aussi, c'est vrai que comme le disait Julius Samédée, il n'y a pas que l'esclavage. La colonisation, l'histoire des Antilles et l'histoire humaine en général. Chaque peuple a été à différents moments, beaucoup de peuples ont été à différents moments oppressés. Et ce qui m'intéresse aussi dans le roman, c'est dans l'adaptation du roman, à travers l'histoire de Solitude, ce morceau d'histoire relativement récent, pouvoir parler aussi d'autres formes de souffrance de l'humanité et aussi comment transcender ces souffrances et réussir à porter un message humaniste et d'espoir.
Alors, vous voulez rajouter quelque chose ou...
Non.
Alors, justement, on vient de l'évoquer, hein, vos deux spectacles s'inscrivent vraiment dans un espace théâtral d'une très grande épaisseur historique. Et j'aimerais vous faire réagir à un propos que tient Bernard-Marie Coltès dans la pièce « Le retour au désert ». Justement, que j'évoquais juste avant, à propos du... C'est le personnage qui s'appelle le parachutiste noir qui dit ça et qui donne une définition de l'histoire. Et donc, il dit, on me dit que c'est l'histoire qui commande l'homme, mais le temps de la vie d'un homme est infiniment trop court. Et l'histoire, grosse vache assoupie, quand elle finit de ruminer, elle tape du pied avec impatience. Alors, je voulais savoir si par votre travail et votre engagement artistique, vous pensez pouvoir réveiller cette grosse vache assoupie que serait l'histoire, comme le dit Coltès.
Ben, moi, j'entends par grosse vache, encore une fois, quand j'entends parler d'histoire, j'entends pour moi, c'est synonyme de mensonge. Donc là, il s'agit pour moi et pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté de rétablir la vérité sur le mensonge. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre.
Et donc, moi, compléter ce que tu viens de dire. Moi, si je veux réveiller ce que j'aimerais bien réveiller un peu, c'est peut-être pas très modeste de dire ça, mais réveiller un petit peu les consciences. L'histoire n'a pas à être réveillée. L'histoire est ce qu'elle est. Elle nous construit de par ses mensonges et de par les choses qu'on veut bien nous dire et ses vérités aussi. Mais effectivement, s'il faut réveiller quelque chose, s'il faut réveiller la pensée.
Et justement, au-delà de l'histoire, à proprement dit... On a là des textes de littérature, que ce soit le roman d'André Schwarzbach, dont enfin, je n'ai pas lu le roman, mais en tout cas l'adaptation, je l'ai trouvé vraiment vraiment réussi, ou que ce soit votre pièce, Julius. On a des paysages et des territoires qui sont à la fois des territoires intimes et des territoires collectifs, qui sont toujours des territoires voilés. Hein. C'est Webb Dubois hein, qui, dans son essai « Les âmes du peuple noir », définit le fait d'être noir comme si on portait un voile. Et ce voile, on le voit, est toujours sur les personnages. Et moi, je me demandais dans la mise en scène, comment est-ce que vous avez travaillé la dramaturgie ? Alors, notamment dans vos deux spectacles, le travail sur les lumières et la bande sonore, qui est très important. Et dans le vôtre, Fanny Garenko, le travail vidéo, pour justement souligner tous ces voiles, s'ils ont besoin d'être soulignés.
Oui, alors effectivement, vous parliez à l'instant de l'intime, ce que j'ai compris. Moi, c'est déjà une partie du travail qui m'intéressait beaucoup, c'est comment partir d'une histoire aussi personnelle pour raconter la grande histoire. C'est les féministes qui disaient ça et... Le privé est politique. Et pour moi, la vie d'une personne, son combat, appartient aussi aux politiques. Et donc l'utilisation dans le spectacle des vidéos répond justement à cette envie que j'avais de pouvoir s'éloigner du sujet direct en donnant à voir d'autres images qui élargissent un peu le propos, mais comme des pistes de réflexion pour notamment sans vouloir trop dévoiler, mais il y a des enfants soldats et voilà, c'est juste se dire sans marteler, dire regardez c'est mal, dire voilà il s'est passé ça à tel moment, bah maintenant il y a ça, est-ce qu'il y a un lien ou peut-être qu'il y en a pas, mais juste offrir cette possibilité d'y réfléchir.
Oui, je voudrais revenir sur l'histoire racontée par les vainqueurs. Et c'est une histoire qui est truffée de mensonges. Quoi. Et c'est, le déclic pour moi, ça a été vraiment ce livre que j'ai lu il y a quelques années de Sarah Lebovici, où brusquement, elle donnait tous les arguments. Je conseille à tout le monde de lire ce livre. Ça s'appelle Christophe Colomb juif. Et elle donne quantité... d'arguments qui nous démontrent que Christophe Colomb était juif. Bon, je vais juste en donner deux, trois. Les deux frères de Christophe Colomb étaient les capitaines des deux autres caravelles qui composaient la flotte qui allait vers les Amériques. Et ils correspondaient avec ses frères pour pas que l'équipage comprenne, il correspondait par petit message en hébreu. Donc quand on n'est pas juif, on ne parle pas hébreu, on n'écrit pas hébreu. Il était né dans un quartier, il était génois effectivement, et il était né dans un quartier, dans le ghetto juif de Gênes, ça c'est pas précisé. Donc à partir de là, et là c'est pendant 200 pages, elle nous donne quantité d'éléments qui nous démontrent que Christophe Colomb était juif. Et pour moi c'était un déclic, je me dis mais comment on nous a présenté jusqu'à maintenant Christophe Colomb, grand catholique qui est là, envoyé par les bons rois d'Espagne, très catholique, et que dans la réalité des faits, c'est faux. On a maquillé l'histoire. À partir de là, je me suis dit, ben, j'avais déjà quelques doutes, et je me suis dit, toute l'histoire qu'on nous raconte, elle est peut-être quelque part très falsifiée. Et j'en ai eu des preuves, parce qu'ensuite j'étais en contact avec des universitaires qui font des études contradictoires sur l'histoire officielle. Ils m'ont démontré quantité de choses, ils m'ont montré leurs travaux et c'était très extraordinaire. Donc moi, à partir de là, juste pour vous dire un petit exemple, il n'y a pas un seul récit, là j'ai un seul récit d'esclaves, de témoignages d'esclaves qui nous parlent de leur quotidien, alors qu'il y a eu des centaines, je parle pour les Caraïbes, pour nous, les Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens, Caraïbes, francophones, il n'y a pas un seul témoignage d'un esclave, du quotidien d'un esclave, alors qu'on a vécu pendant plusieurs siècles dans l'esclavage, alors que nous étions des millions à vivre l'esclavage. Ça, pour moi, c'est une falsification de l'histoire. Et c'est quand vous me parlez de l'histoire, j'ai presque envie de dégueuler, quoi. C'est juste du mensonge, parce que ça, c'est ça, votre histoire, c'est pas la vraie histoire.
Je suis d'accord avec vous. Hein, voilà. Mais sur la question, parce que vraiment, je voudrais vraiment qu'on évoque la forme littéraire de votre texte, Julius Amédée Lahou. Ce que je voudrais vraiment savoir, c'est vous évoquez quand même la forme, hein, ces quatre monologues qui se suivent, qui dialoguent à différentes époques, à différents moments. Comment est-ce que vous avez le même avis que Fanny Karenko, justement, l'idée qu'on part d'une histoire personnelle et qu'on raconte une histoire collective, quelque part ? Quelque chose de très brodélien, en somme. Mais voilà, comment est-ce que vous voyez la chose par rapport vraiment à l'écriture de votre partition textuelle ?
Ben, évidemment, ce sont des histoires symboliques. Ce sont des histoires pour les quatre personnages de ma pièce. Ce sont quatre personnages très profondément symboliques. Que ce soit la jeune indienne qui est là sur la plage et qui voit arriver les navires. Bon, c'est une fiction, évidemment, qui n'existe plus. Ils ont été tous massacrés. C'est une fiction. Donc, chaque choix de personnage est pour moi un regard symbolique sur une réalité, qui s'est passée. Et que ce soit... Là, je vais peut-être vous étonner, mais il n'y a aucun témoignage écrit. Mais par contre, il y en a quelques-uns oraux. Ma mère a été élevée par sa grand-mère et sa grand-mère a eu des témoignages directs de sa mère et de sa grand-mère qui étaient dans l'esclavage. Donc moi, directement, de ma mère, et j'ai connu mon arrière-grand-mère quand j'étais petit, elle a raconté quantité d'histoires horribles sur qui se passait, que lui a raconté sa mère et sa grand-mère durant l'esclavage. Donc on n'a pas d'écrit, mais rien que moi, je peux raconter quelques petites histoires où ma mère, qui est toujours là, et qui, j'espère, sera là très longtemps, encore longtemps, et peut vous raconter des histoires que sa grand-mère lui racontait. Et bon, et ça, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas dans vos livres d'histoire.
Mais on est là pour en parler voilà. Aujourd'hui sur le plateau, et c'est vraiment pour ça aussi que je voulais vous inviter. Alors, vos deux mises en scène, il y a une grande inquiétude dans la mise en scène. Il y a une indétermination des personnages liée à l'incertitude sur leur sort et à la violence de leur oppression. Et en même temps, dans vos deux spectacles, on sent évidemment et heureusement une critique très virulente du discours idéologique colonial. Alors, par exemple, Fanny Karenko, votre mise en scène m'a vraiment...
Je dirais plutôt officielle, parce que maintenant, on ne se targue plus, on ne peut plus dire discours colonial, c'est le discours officiel.
Non, ouais, oui, ouais. C'est vrai. Et justement, Fanny Karenko, votre mise en scène m'a évoqué l'incipit, ou enfin, les premières lignes du cahier de Césaire, quand il dit, enfin, je vais lire juste le passage, hein, ça m'a tout de suite évoqué ça. Au bout du petit matin, bourgeonnant, dense, frêle, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville, sinistrement échouée. Et j'ai trouvé que vous aviez une manière de mettre en scène la poussière qui pouvait se rapprocher de ce constat finalement que fait Césaire, ce constat, voilà, pour combattre ce constat et pour construire quelque chose. Est-ce que vous avez pensé à ça lors de la construction de votre mise en scène? Comment c'est venu?
Moi, j'ai pensé surtout à dans l'histoire de poussière. Pour moi, il y a aussi une idée de poussière du colonialisme, du capitalisme surtout. C'est ça que j'ai essayé de mettre en avant aussi, c'est que à travers ce récit historique, il y a des passerelles assez évidentes avec ce qui se passe encore aujourd'hui. Et bah, par exemple, la scénographie, quand je mets un bateau échoué, un bidon d'huile, c'est, pour moi, c'est un port d'Afrique. Un port d'Afrique qui a, il n'y a pas si longtemps, comme le rappelait Julius, a transporté des esclaves qui maintenant exploitent la misère des gens. Et cette misère reste. Et c'est des pays. Enfin, je ne suis pas antillaise. En tout cas, j'ai l'impression d'être guadeloupéenne de cœur, en tout cas. Mais quand j'y suis allée, c'est ça qui m'a frappée aussi. C'est ce pays qui est si beau, qu'on a, mais qui est marqué par une histoire coloniale et qui dépasse le simple cadre historique. C'est vraiment tout un système qui met des gens les uns contre les autres, et voilà.
Et justement, Julius Amédée Lahoud, on retrouve également dans votre pièce l'idée que tout serait en poussière, en cendres même, notamment dans le dernier monologue que j'ai trouvé très beau, et c'est pour ça que j'ai choisi de lire la fin de ce monologue lors du passage qu'on a entendu. Alors, Fanny Karenko vient de le rappeler, on sait combien les territoires d'outre-mer sont relégués dans les politiques publiques, hein, et on l'a vu avec la situation en Guyane, totalement indigne. Et vous travaillez sur la mémoire. Vous avez évoqué, c'est très beau ce que vous dites, de dire que voilà, vous avez entendu de la bouche de votre arrière-grand-mère ces récits. Et en même temps, ce constat amer que dresse Césaire dans le cahier, que tout soit encore en poussière finalement, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Comment est-ce que vous pouvez réagir à ça, malgré le travail accompli finalement, quand même depuis des décennies pour valoriser ces territoires des Caraïbes, et notamment le travail d'Aimé Césaire lui-même en tant qu'homme politique? Est-ce que c'est toujours en poussière?
Quand je regarde les Antilles aujourd'hui, je ne suis pas optimiste. On ne peut pas être optimiste. Déjà parce qu'il y a un exode, de la jeunesse. Et qui est-ce qui remplace? Ben, ce sont les retraités français qui viennent acheter chez nous. Parce qu'il y a des belles plages, il y a du soleil, donc... Et les jeunes s'en vont, donc on a un certain nombre à penser que dans 100 ans, ben, il n'y aura plus d'Antilles aux Antilles. Ce sera une autre terre qui appartiendra aux Nantis d'ici. Et que tous les originaires, ceux qui sont des descendants des esclaves, ils seront ailleurs, dans d'autres histoires. Ici, au chômage, à Pointer, ils sont SDF dans les rues. Faire la manche, ou dans les usines, ou s'il y en a encore, je crois qu'il n'y en aura plus beaucoup. Donc, non, je peux être que pessimiste, malheureusement. Quand je regarde ce qui se passe, l'évolution chez moi en Martinique, je vais dans des quartiers, je vais dans des communes en Martinique où les gens me regardent de travers, parce qu'il n'y a que des Blancs. Mais c'est l'impression d'être en Afrique du Sud, réellement. Ils me regardent de travers, tiens, qu'est-ce qu'il fout ici? C'est pas sa place, ici c'est pour nous. Et c'est de plus en plus ça, quoi. Donc je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas du tout optimiste, je suis plutôt pessimiste pour l'avenir de, si vous me parlez de la Caraïbe, si vous parlez de la Caraïbe française, de notre pays, oui, je suis pessimiste.
Et vos deux spectacles, hein, on va en parler quand même, puisque voilà, il faut en parler. On a quand même des spectacles de théâtre. Démontrent vraiment une grande passion pour la direction d'acteurs, j'ai trouvé, qui est assez... on va dire c'est normal dans un spectacle de théâtre, mais voilà, il y a une vraie recherche malgré, j'ai envie de dire, l'étroitesse des lieux. Il y a une vraie recherche qui est impressionnante et qui peuple vraiment, qui habite l'espace théâtral. Et je me demandais quelle indication vous donniez à vos comédiens pour jouer la révolte et la colère, parce que au cours de vos deux pièces il y a beaucoup d'amertume dans la parole des personnages, mais en même temps on a l'impression que tout est contenu pour exploser en des climax à la fin. Comment est-ce que vous construisez tout ça dans le travail avec les comédiens?
Ça c'est le secret de la cuisine, hein. Là, je ne vais pas vous donner notre
recette. Sans être vindicatif, en fait, parce que ça n'est jamais vindicatif. C'est de la poésie, oui, en fait. C'est ça qui est très beau. Comment est-ce que vous arrivez à faire cette alchimie, finalement, quelque part?
Vous voulez dire exactement comment les comédiens arrivent à jouer
Comment ils arrivent à jouer la colère et la révolte sans être vindicatif, en fait?
Ça, c'est encore d'une part parce que c'est une directive, c'est ma directive, bien évidemment. C'est une directive de la mise en scène. Et puis d'autre part, ça tout tient à la qualité du comédien, quoi. Au talent du comédien de pouvoir jouer dans la nuance et l'intelligence et la sensibilité. Je veux dire, bon, jouer simplement l'agressif, révolté, ça va nulle part. Évidemment, il s'agit de montrer toute la palette pour les uns et les autres, toute la palette de la palette de l'humanité de chacun d'eux. Donc il n'y a pas lieu de s'éterniser sur le seul élan agressif qui est complètement qui est pas représentatif et complètement contre-productif et qui ne correspond pas à la réalité de la nature humaine.
Et si je peux rajouter, il y a aussi l'importance du texte, que c'est des textes qui sont suffisamment forts pour ne pas avoir à être en colère. Et la colère, nous, on a eu vraiment cette discussion quand on a travaillé avec les acteurs, parce que effectivement, c'est des choses qui sont intimement, je pense notamment à Marie-Noëlle Euseb, qui est la comédienne guadeloupéenne qui nous accompagne et qui joue Solitude et qui porte cette colère en elle. Il n'y a pas besoin de l'exprimer plus que ça, elle est là. Et justement, la force des comédiens est de laisser cette colère sous-jacente pour exprimer d'autres choses, et les spectateurs voient la colère par d'autres biais.
Aucun intérêt de montrer que la colère, il y a toute une palette de l'insensibilité des individus qui est beaucoup plus riche à montrer que simplement un cri de colère. Ça doit être beaucoup plus large, étendu que cela, quoi.
Justement, je vous pose la question parce que certains spectacles sont mauvais, justement, parce qu'ils ne font pas la distinction de cette palette des sensibilités. Je voulais vraiment avoir votre avis sur cette question. J'aimerais aussi vous poser une question là, beaucoup plus, structurelle. Vous êtes tous les deux, vous dirigez des compagnies qui sont basées. Julius, vous avez un café théâtre, si j'ai bien compris, donc qui est à Montpellier.
Non, c'est pas un café théâtre, c'est un cabaret théâtre.
Ah, d'accord, cabaret théâtre. Vous pouvez nous en parler un peu.
Oui, je peux le dire que je l'ai plus. Il est fermé et que je vais en ouvrir un autre normalement à la rentrée. On va chercher un autre lieu. Mais là, il est fermé depuis deux mois.
Et donc, quelle était cette aventure pendant...
Très belle aventure. On a monté beaucoup de choses. On a monté des Tchekhov. On a monté des Tchekhov. On a monté une adaptation de Bergman, Cri et chuchotement. Très, très beau travail. D'excellents comédiens. J'ai eu cette chance-là de travailler avec d'excellents comédiens qui étaient... On a fait des très 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 beaux travaux. Je suis très content de ce qu'on a fait. Et on a monté.
Et d'ailleurs, vous jouez On purge bébé aussi dans l'off. Il faut le préciser. Vous pouvez nous parler de ce spectacle?
Ça, c'est une récréation. Vous voyez, ça me fait. Là, je dis purge bébé. Hop, je rigole. parce que c'est juste une récréation. Et puis, c'est très marrant parce que l'autre jour, j'ai fait une petite, un petit tractage avec une pièce très commerciale qui, est devant, qui passe avant nous, qui passe après nous. Et puis, j'ai annoncé, il y a 250 personnes qui attendaient. C'est beaucoup de demandes. Et puis, le directeur du théâtre qui m'a dit, bah, tiens, va tracter, là, c'est avec, pour ton Fedo, ça va peut-être leur plaire. Alors, je leur ai dit, venez voir Georges Fedo, un auteur français pour les vrais Français. Donc, ça a un peu étonné. Puis après, ils ont rigolé. Et puis, il y a un monsieur qui est passé, qui m'a regardé de travers, tout rouge, comme ça. Je sentais qu'il avait envie de me frapper. Pour qui ? Je suis français, moi. Puis il m'a dit, non, je ne prends pas. Non. Vous n'êtes pas un bon français, monsieur. Vous n'aimez pas Georges Fedo. Donc, ben voilà, on rigole. Ça me fait rire. C'est une récréation.
Où se joue cette récréation ?
Eh bien, toujours même théâtre de la Carreterie.
Est-ce que vous nous rappeler les dates d'une autre histoire ou un malentendu pour nos auditeurs ?
Alors, les prochaines dates, c'est le mardi 18 à 17h30 et à 22h. Et le jeudi 20, il ne reste plus que 3 représentations, le jeudi 20 à 18h50. Donc, mardi 18, 17h30 et 22h. Et le jeudi 20 à 18h50.
En tout cas, chers auditeurs, allez voir le travail de Julius Amédélaou parce que c'est assez étonnant comme travail et en même temps c'est très très beau et c'est des moments précieux dans le Festival d'Avignon au milieu du lustre éclatant de nombreux spectacles. Fanny Grenko, vous pouvez me parler un peu de votre compagnie, de votre travail à Montpellier, à Annecy aussi ?
Oui, donc ma compagnie moi, est basée sur Montpellier. Je travaille régulièrement à la scène nationale d'Annecy qui accompagne mes créations, c'est rare et formidable d'avoir un soutien comme ça. Après, j'essaye de pas... Je suis ancrée à Montpellier pour des raisons personnelles, mais moi j'ai pas envie d'être réduite à une région ou à une ville. Je pense que l'important c'est de pouvoir faire tourner ses pièces au maximum. Et après, bah, une compagnie, c'est au départ on fait pas ce métier-là pour gérer des problèmes administratifs, mais on est bien obligé de s'y confronter. Mais ça permet surtout de, enfin pour moi c'est surtout un moyen d'essayer de créer. Voilà.
Est-ce que vous nous rappelez les dates aussi de votre spectacle pour nos auditeurs ?
Tout à fait. Donc c'est La Mulâtresse Solitude d'après André Schwarzbart et c'est à 10h30 à l'espace Roseau Teinturier et on joue tous les jours sauf le mercredi.
Julius, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, juste ben pour ça marche.
Si c'est bon, ça marche. C'est bon.
Et juste préciser, les gens qui veulent venir voir Georges Fedo en Purge Bébé, on rigole bien, c'est tous les jours pairs à 11h du matin, tous les jours pairs en Purge Bébé, on rigole.
En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller voir ces deux productions, ne serait-ce que pour la qualité du jeu d'acteur, pour la qualité du travail littéraire, que ce soit texte écrit ou adaptation du roman d'André Schwarzbart. Voilà, c'est des spectacles qui sont rares et dont il faut profiter parce que c'est ça aussi Avignon et c'est important de le dire et c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui ici pour qu'on puisse évoquer ensemble votre travail. Et donc pour terminer cette émission, j'aimerais poser une dernière question à Fanny Karenko. Puisque la chanson qu'on va entendre à présent pour terminer cette émission termine aussi votre spectacle. C'est The Partisan de Leonard Cohen. Alors je voudrais que voilà, vous nous parliez de cette chanson. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît à la fin de votre spectacle ? Pourquoi cette chanson ?
D'abord, donc, c'est le chant des partisans. Donc, c'est un chant de révolte, un chant de combat, de résistance. Je ne voulais pas finir par une chanson qui renfermerait le débat à une problématique purement antillaise aussi. Je voulais ouvrir un peu. Et aussi parce que Leonard Cohen était juif, que l'auteur André Schwarzbart était juif aussi. Et que finir le spectacle comme il commence, en évoquant la Shoah et la déportation et la résistance à ça. Voilà, redire l'esclavage... L'esclavage a été une déportation aussi, au même titre que la Shoah, pour moi. Et puis c'est un chant surtout qui n'est pas revanchard, qui est un chant de croyance en l'être humain. Et voilà, c'est pour ça que je voulais finir là-dessus.
Merci à tous les deux d'avoir été dans notre émission. C'était Antoine Maignan à la technique, juste derrière nous. Merci à lui. Bonne écoute à tous sur la radio L'Écho des Planches. Nos programmes continuent. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter un dernier mot ? Un commentaire ?
Merci de nous avoir invités.
Merci.
Merci beaucoup. Et donc, on entend tout de suite Leonard Cohen, The Partisan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
Come from the shadows.